Cette semaine, Claire Maillot rencontre Gérard Fromanger. Ce soir, mai 68, l'omniprésence du rouge.
Bonsoir Gérard Fromanger. J'aime ce rire. On s'est quitté hier sur cette idée que vous étiez un démocrate de la couleur. Vous dites souvent que les couleurs composent un alphabet, que vous pouvez réécrire tout à fait autre chose que ce qu'elles écrivent habituellement, qu'il faut leur redonner de la liberté, que vous ne voulez pas les emprisonner dans une seule valeur. Mais il y en a une qui vous colle à la peau, Gérard Fromanger, c'est le rouge. Le rouge Fromanger, comme l'écrivait Prévert. Je me suis demandé si ce rouge-là, qui est extrêmement...
Il disait pas le rouge Fromanger. Il disait rouge Fromanger, c'est pas pareil.
C'est quoi la différence?
Bah, comme on dit blanche de Castille, ou vert véronaise. C'est pas le vert véronaise. C'est pas pareil.
Alors, rouge Fromanger, malgré tout,
oui,
il est extrêmement connoté.
Comme si j'étais au lieu de Gérard, voilà, rouge au lieu de Gérard, comme un prénom.
Ouais. Mais il est extrêmement connoté. Il renvoie peut-être à l'esprit de mai 68.
Oui, oui, absolument. Absolument.
Est-ce que cette couleur-là, elle vous a pas enfermé?
Alors, je vais répondre par une lettre que m'a envoyée Karl-Heinz Stockhausen, le musicien.
Vous aviez scénographié un spectacle.
J'avais scénographié une de ses musiques qui s'appelait Hymnen. Mm. Et avec deux fois d'ailleurs. Une fois en 72 avec le Ballet Théâtre Contemporain d'Amiens. Et une fois il y a 4-5 ans avec le Ballet Théâtre de Nancy. La scène nationale, comme on dit aujourd'hui. Scène nationale de Nancy. Et j'avais fait sa connaissance à Londres, à une foire qui s'appelle Frise. Et il m'avait donné un quart d'heure, c'était un privilège formidable, pour parler de ce ballet, tout ça. Puis après, il m'avait envoyé une lettre en me disant, alors que dans cette musique, toutes les 5 minutes, il y a red, 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 red. Il m'a envoyé une lettre en me disant, vous savez, Gérard Fromanger, j'adore votre œuvre, j'ai beaucoup de respect, j'ai des admirations, mais il n'y a pas que le rouge dans la vie. Alors, il avait raison. Bah oui. Donc peut-être il m'a aidé justement. Je crois pas. Enfin bon, à choisir toutes les couleurs. Mais à une époque, oui, qu'est-ce que tu veux?
À une époque.
À une époque, 68. D'abord, et puis ça me rappelle mon père qui était peintre amateur, donc, mais son métier c'était expert joaillier. Il était expert en bijoux, orfèvrerie, tout ça. Et alors, il rentrait de la salle des ventes, il se mettait à taviser. Le rouge se vend. Voilà, c'est drôle, ça m'avait choqué, frappé. Je dis, ah bon? Oui, oui. Le rouge se vend, donc dans les ventes, etc. Le rouge attire certainement le jour. Puis c'est la violence, c'est le sang, c'est le feu. C'est...
Donc il y a une symbolique au rouge, pour vous?
En 68, oui. Oui, en 68, 9, 10, 11, 12, oui, il y avait une symbolique. Révolutionnaire... Vaguement militante, c'est sûr.
Vaguement militant? Vous n'étiez pas militant?
Non. Oh non, je ne peux pas m'honorer de ce titre. Responsable, volontaire, discipliné, non. Non. C'est mieux. Enfin, c'est plus ma nature, quoi. Militant, il faut obéir, il faut être discipliné, il faut... Alors, on avait les collectifs à la Jeune Peinture, mais c'était pas des militants, on n'était pas des militants. Chacun donnait son avis. Il y en avait d'ailleurs toujours un qui était contre. Un peintre, un art. Mais quoi qu'on parle, c'était bien, mal, rien à foutre. Qui est pour? Tout le monde levait la main. Qui est contre? Hop, il y avait lui, toujours le même. Ouais. Zeimert, Christian Zeimert. Il faisait des monuments aux ivres morts. Ah, il faisait des tableaux genre sculptures de la guerre de 14 et des monuments aux ivres morts. Ou alors il faisait la conquête du mamelon. Alors il y avait plein de petits soldats qui conquéraient une paire de seins magnifiques. Oui, c'est sympathique. Bref.
Si vous n'étiez pas militant, est-ce que vous aviez une forte conscience politique? Et à quel moment est née
j'avais cette illusion, disons.
C'est mai 68 ou c'est avant mai 68?
Oh, c'est bien avant.
À quel moment?
C'est bien avant. Je devais avoir 14-15 ans. Ben, j'étais chez les jésuites à Évreux. Pour des raisons ou autres, on me foutait la paix. J'ai pas envie de raconter ça. Mais quand même, on a fini par me virer. Mais au moment de Dien Bien Phu, en 56, par là, alors le général de Castres, je ne sais plus s'il était colonel ou déjà général Bijard, tout ça, c'était des héros français fantastiques. Ils venaient se faire foutre une... Enfin bref, ils étaient vaincus quand même. Mais non, c'est vrai que certainement, ils avaient été très courageux dans une histoire de colons, c'est-à-dire de colonialisme post. Enfin, une histoire épouvantable, la guerre d'Indochine, comme toutes ces guerres d'indépendance. C'était cruel, c'était difficile, mais enfin, c'était des grands héros français. Bon, tu sais, tu es enfant, on t'apprend ça, t'es plutôt pour, t'es dedans, etc. On t'a jamais appris autre chose, bon. C'est ce qui fait qu'il y a une droite française, qu'elle se reproduit dans les familles, etc. C'est comme ça, j'étais dedans. On me vire, et on me met 200 mètres plus bas au lycée d'Evreux, qui était à l'époque le plus moderne d'Europe, il était tout neuf, tout ça. Et je tombe sur les enfants des révolutionnaires, du FLN, des Vietnamiens, du Viet Minh, comme on disait, etc., des Algériens, des Marocains, etc. Beaucoup étaient là, au lycée d'Evreux. Et qui, eux, alors, me disaient évidemment le contraire. Ah, alors, je dis, bon, alors, c'est qui a raison? C'est là-haut ou c'est en bas? Alors, t'apprends les contradictions. T'apprends le marxisme. J'avais jamais entendu parler de Marx, moi, là-haut. Et là-haut, c'était Jésus-Marie-Joseph. En bas, c'était Marx. Femme Vendong, Ho Chi Minh, etc. Et Ben Bella, etc. C'était leurs enfants qui étaient là. Alors là, t'apprends la politique. C'est-à-dire le jeu des contradictions, le jeu des pouvoirs, le jeu des influences, les volontés d'indépendance, de colonie, les rapports de force, etc. T'apprends tout ça. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà.
Et vos camarades de la figuration narrative au début des années 60 étaient aussi très politisés.
Oui, oui.
Est-ce que vous avez aussi appris à leur côté?
Oh, bien sûr.
Ouais. Avec Arroyo, je pense à Arroyo qui nous a quittés récemment. Mais
lui, c'était l'antifranquisme. Il venait de ça. Et puis, il y avait les Italiens, les Islandais, il y avait des Espagnols, il y avait des Belges, il y avait tous les Européens, il y avait même un ou deux Américains qui étaient tous politisés. C'était une génération où on était politisé, pour une raison ou une autre.
Votre peinture avait déjà un caractère politique avant mai 68?
Ben oui, le Gérard Philippe.
Extrêmement politique.
Ah, oui, oui.
Vous pouvez revenir sur, on n'en a pas parlé, mais la signification de ce titre, Les Pétrifiés.
Ah oui.
Parce que peut-être que ça peut décrire aussi ce qu'était la France des années près 68.
Oui, c'est-à-dire, ça s'appelait, il a eu plusieurs titres. Le premier titre, c'était « Made in France ». Oui, « Fabriqué en France ». Oui, mais c'était parce que, d'abord, il y avait marqué ça sur tous les produits français, « Made in France », et pas « Fait en France », « Made in France ». C'était Pompidou, c'était l'industrialisation de la France. On découvrait les chaînes de voitures, les fabrications industrielles, les autoroutes, tout ça, la fin des banlieues, les reconstructions, les cités, etc. Et pas la fin des banlieues, mais la fin de certaines constructions, certaines habitations, la fin des, comment on appelait ça, les bidonvilles, tout ça. Il y avait une industrialisation de la France, donc un refroidissement des sentiments. Pour moi, peintre, j'exagère, je suis toujours dans mon rêve romantique, dans mon romantisme d'artiste. Donc je vois ça un peu à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et je réfléchis à tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec les sentiments et les émotions? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Bon, fou, moi, des bagnoles et tout ça. Par contre, qu'est-ce que ça donne comme subjectivité nouvelle, disons? Ah, alors là, quand je vois Gérard Philippe ou ces héros romantiques très français, comme Ruy Blas, Le Cid, etc., enfin bon... tous les héros du grand théâtre classique français, le prince de Hombourg, par exemple, le Cid, Corneille, tout ça. Je me dis, bon, alors au moment où on industrialise la France, tous ces héros d'un lyrisme idéal à la française, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ben, ils deviennent des objets de consommation à la chaîne. Donc, ils sont refroidis. Leur lyrisme est reproduit à la chaîne. Il est mécanisé.
Mais 68...
Le titre frigorifié, c'était aussi, ça fait froid dans le dos, quoi.
Frigorifié ou pétrifié?
Bon, il y avait d'abord frigorifié, puis ensuite pétrifié. Oui, mai 68.
Et dans mai 68, il y avait quand même cette énergie romantique. Vous avez vécu cette période-là comme un romantique, mai 68?
Bah oui, évidemment. C'était une situation amoureuse. On était amoureux les uns des autres et amoureux du social, amoureux du franchissement des barrières, de l'éclatement des barrières sociales, intellectuelles, émotionnelles, etc. La vie prenait un sens direct et non plus médiatisé, spectaculaire. On n'était plus représentés, on était nous-mêmes, les enjeux, les acteurs.
On a raison de vous renvoyer en permanence à cette période-là. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vous sollicite, Gérard Fromanger, au-delà des grands entretiens qu'on peut...
Non seulement vous en avez l'impression, mais vous le faites
vous-même. Vous le reproduis, mais pour essayer de comprendre à quel point ça a pu jouer dans votre parcours, dans votre carrière et dans votre geste. Est-ce que vraiment c'est un moment de bascule pour vous ?
Oui, en tout cas un moment d'adéquation avec le monde qui était extravagant, extraordinaire, inouï, irreproductible, disible, etc. On ne peut pas refaire ça. C'est un moment clé, oui, c'est vrai, parce que la découverte des visus, dans le vivo, que c'était possible, même un ou deux mois, d'être vraiment ensemble, de vivre une utopie. Alors évidemment, c'était sans réflexion, sans avenir. Ça, c'était, et heureusement, ça ne s'est pas terminé comme toutes les révolutions par des bains de sang, des procès, etc., des haines. Non, c'est resté comme ça un moment privilégié, extraordinaire, où on a cru que l'homme était bon. Ah oui, on a cru que l'homme était bon. On n'a pas très vite déchanté, d'ailleurs, mais enfin, quand même, on a déchanté.
Oui, parce que s'ouvre après une période extrêmement intense pour vous, toute la décennie 70. Vous peignez une série par an. Vous êtes extrêmement...
Productif.
Productif, c'est le mot que je cherchais, effectivement. Ouais. Comment vous avez vécu cette décennie-là? On a l'impression que vous étiez partagé à la fois entre cette intense activité picturale et puis, de l'autre côté, un militantisme,
c'est vrai, un engagement véritable.
Tout ça est vrai,
oui, oui. Le tiraillement existait entre les deux vies et, au fond, je ne pouvais pas faire l'un sans l'autre. C'était lié obligatoirement. Ce qui fait que les gens, par exemple, qui font, que je respecte beaucoup, mais ils font une peinture abstraite en dehors de toute réalité politique, sociale, comme ça, etc. Soi-disant, en plus on ne sait pas, ce qui se passe dans la tête et le cœur des gens, même qui ont l'air comme ça, de moines solitaires dans l'abstraction. Enfin, en gros, on a plutôt l'impression qu'ils sont en dehors du réel, en tout cas social, politique, etc. Pour moi, c'était impensable. C'est-à-dire que l'art était forcément... C'est-à-dire que si on parle des couleurs, du réel, des sons, des matières, etc., la littérature, la géographie, l'histoire, la politique, ça fait partie du réel. Si on l'élimine, on ne parle pas du réel. C'est comme ça, je suis comme ça, voilà. Je suis devenu comme ça, un animal humain qui prend en charge aussi, alors moi je ne suis pas un propagandiste, je ne suis pas un réaliste socialiste, c'est pour ça que là, ils me disent que je suis un peintre conceptuel, parce qu'il n'y a pas tellement de figuration narrative, il y a, mais il y a autre chose. Puis alors, tu comprends, au bout d'un certain nombre d'années, par exemple, je prends Miro, l'artiste Miro, quand les anarchistes espagnols sont menacés et ont été d'ailleurs garrottés par Franco, par le franquisme, il y a un certain nombre de militants qui ont occupé, je crois, le château de Montserrat, ou le couvent de Monserrato, dans la montagne des Pyrénées, sans doute par là. Eh bien, ils ont demandé à Miro, qui a accepté, de venir avec eux, pour en quelque sorte les sauver, leur donner un porte-drapeau plus large que leur militantisme. Ah, ça m'a frappé, j'ai dit, mais moi je suis comme Miro. Je suis comme Miro, évidemment, je ne suis pas Miro, mais je veux dire, je suis un artiste qui peut apporter ce plus de reconnaissance, de noblesse d'âme, d'intellectualité, de vie d'artiste, de travail, etc. Je peux apporter ça à cette cause qui me paraît juste. Alors, on n'arrêtait pas de faire d'aller chercher des lithos chez Miro, chez Chagall. Il n'en donnait pas, d'ailleurs, Chagall. On va chez... etc. Il y en avait deux qui donnaient jamais, c'était Dubuffet et Chagall. Enfin, bon, tous les autres donnaient. Pour telle ou telle cause, ça peut être pour la recherche sur le cancer, pour les restos du cœur, etc. Enfin, bon, n'importe quoi. Toutes les causes sont bonnes, et aussi des causes politiques. Moi, je préfère qu'on vienne me demander une litho que d'aller la chercher chez un artiste. Voilà, petit à petit, j'ai bien compris où j'étais. Et j'ai arrêté cette distorsion ou ce drame entre politique. Je garde une des données du réel, le politique, dans mon art. Mais il n'est pas fondamentalement politique. Et avant tout, un tremplin pour les affects.
Et vous pensez que vous pouvez bousculer le réel, le transformer et peut-être modifier les affects de ceux qui regardent votre peinture?
Je pense une chose très précise là-dessus. Je pense que dans mon petit domaine, dans mon petit atelier de la Bastille, dans ma solitude désirée, indispensable pour créer.
Il y a une citation de Picasso. Vous pouvez la lire? Vous la connaissez par cœur ou pas?
Rien ne peut être fait sans la solitude, dit Picasso. Je me suis créé une solitude que personne ne soupçonne.
Alors vous êtes pris entre le mouvement du monde et cette solitude-là. Et entre ça, vous pouvez bousculer le réel?
C'est-à-dire que j'estime que c'est mon rôle. À mon petit niveau, personnel, solitaire, très limité, au moins, j'ai ce pouvoir de faire la tentative de changer ce que j'ai déjà fait, de faire avancer ma propre histoire, d'inventer un petit, même tout petit quelque chose. Et donc, par là même, je prouve qu'on peut changer les choses. Si je ne fais pas cet effort, si je peins comme ceux d'avant, moi, je prouve rien du tout. Je suis conservateur. Oui, je suis un conservateur. Je conserve les formes d'avant. Et c'est pour ça que ça emmerde beaucoup de gens, l'art moderne ou contemporain. C'est parce que ce n'est pas encore de l'art. C'est pas décidé que c'est de l'art. C'est nouveau. C'est nouveau. Ce sont des vrais artistes. Ils y croient et c'est profond. Mais on comprend pas. Donc c'est pas de l'art. Si, justement. C'est ça. Alors ça prouve qu'on peut, ça emmerde toujours les conservateurs que le monde change. Évidemment. Et il y avait une très jolie phrase aussi de Tchekhov qui disait « Quand on crée de nouvelles formes littéraires, en général, elles prévoient de nouvelles formes sociales. » Oui, les gens qui inventent quelque chose prouvent qu'on peut changer le monde.
Mais dans la décennie 70, vous allez plus loin. Vous impliquez, notamment avec Félix Guattari, dans le CINEL. Alors j'essaye de retrouver la signification de cet acronyme. C'est le Centre d'Initiative pour de Nouveaux Espaces de Liberté. Là, vous allez plus loin que le simple geste de peindre. Vous êtes véritablement un militant. Est-ce qu'on peut dire un militant?
Oui, est-ce que ça vous a... C'était pas un parti, c'était pas...
Non, c'était pas un parti.
C'est pas un parti, c'était pas...
Mais vous réunissiez quand même deux ou trois fois par semaine, à un moment donné.
Ah oui.
Ça a pris... Est-ce que ça a pris le pas sur la peinture, à un moment
donné? Un groupe d'amis, de discussions, et de temps en temps d'actions sur le réel, pour une manifestation ou une autre, Oui, bien sûr, on a initié des choses pour de nouveaux espaces de liberté, comme c'est dit dans le titre.
Quelle chose?
Des rendez-vous à Bologne, un rendez-vous à Berlin. Ah oui, ça c'était extraordinaire. Par exemple, à Bologne, c'était en 77, je crois. Je crois que c'était en 77. Il y avait le pouvoir de l'Émilie-Romagne, qui était communiste. C'est formidable. D'ailleurs, l'Émilie-Romagne et aussi la Toscane étaient au fond les pays les plus communistes du monde, parce que voter démocratiquement, là, c'était pas des votes bidons. ou transformé, ou je sais pas quoi. C'était pas du 95%, c'était une démocratie, c'est la démocratie italienne qui votait communiste. Prima della guerra, tutti fascisti. Dopo la guerra, tutti comunisti. Alors maintenant, ça recommence dans l'autre sens. Ouais, enfin bon. Ouais, l'histoire. Les étudiants avaient manifesté beaucoup à Bologne, ville universitaire, pour que les prix des chambres baissent. Il y avait les chambres de Bonn à 100 000 lire, c'était beaucoup d'argent pour un jeune étudiant. Et je crois qu'ils avaient envoyé les chars, dans mon souvenir, contre les manifestations d'étudiants, avec beaucoup d'arrestations, etc. Alors ça ne nous plaisait pas du tout. Et des jeunes Italiens étaient venus nous trouver, notre petit groupe Sinel, en disant « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? C'est terrible !» Bon, bah tiens, on va inventer 3 jours et 3 nuits avec la jeunesse italienne ou européenne, etc., pour discuter de tout ça. Ils disaient « Parce qu'on peut plus manifester, on peut plus rien faire, on nous arrête, on nous envoie les chars, enfin ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. » Et ce sont les communistes qui font ça. Et alors ça a été un scandale terrible en Italie. Les intellectuels français qui se prennent pour je sais pas quoi, etc. Mais même moi, j'avais des amis italiens, artistes, etc., qui me disaient « Mais qu'est-ce que de quoi tu te mêles? Ah, t'as rien compris !» Alors, en général, c'était des communistes italiens, d'ailleurs. Et on a fait 3 jours et 3 nuits dans le centre de Bologne, où on était 60 000. C'était extraordinaire. Où ça a discuté, parlé, chanté, etc., où il y avait toutes les minorités d'Europe. Voilà, puis ensuite, on a refait la même chose avec les Allemands à Berlin. Oui, voilà, ça, c'était des actions, oui, oui.
Est-ce que vous nourrissez une forme de nostalgie à l'égard de cette période-là?
Oh, pas du tout, non. Non. Oh, non.
Alors, je vais confier une anecdote pour témoigner de votre curiosité intacte pour le monde et pour l'actualité. On s'est vu il y a quelques jours et puis on discutait et puis vous avez reçu un appel. Quelqu'un vous disait, il y a un documentaire sur Salvini. Il faut que tu regardes ce documentaire sur Salvini et vous avez arrêté absolument toute activité et vous vous êtes positionné devant le poste pour regarder ce documentaire. Vous avez toujours cet appétit-là pour l'actualité. Est-ce qu'elle ne vous désespère pas aujourd'hui?
Mais écoutez, depuis que je suis né, c'est la crise.
Mais 68, ça n'a été qu'un moment.
Oui, mais c'était... Oui, bien sûr, c'était qu'un mois et demi. Et puis, où tout nous passionnait, encore plus qu'aujourd'hui. C'est pas, même ce qui nous était contradictoire. Il y avait des petits fachos, des ordres nouveaux, les gens d'extrême droite qui venaient combattre les beaux-arts, qui venaient, foutre des coups de bâton, etc. Il y avait la bataille, il n'y avait pas que du bonheur, etc. Il y avait ce qu'on appelait les Katangais, qui étaient une espèce de semi-clochards violents, qui venaient... Alors on ne sait pas si c'est des flics, si c'est des policiers, si c'est des vrais militants, si c'est... Enfin, des gens qui venaient foutre le bordel, la merde. Tout ça, enfin, la bataille, quoi, la bataille de la vie. Et depuis que je suis né, c'est comme ça. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais il faut résister. C'est ça, mon histoire. Moi, je suis...
Vous êtes un résistant?
Oui, je suis un résistant. Alors, ce mot recouvre beaucoup de choses que je ne sais pas ce que j'aurais fait pendant la guerre. Mais disons, actuellement, le mot peut fonctionner. Il n'a pas du tout la même violence, même risque, etc., qu'il avait pendant la guerre, contre les nazis, contre l'occupant, contre les arrestations, les tortures, etc. Non, non, non. Donc c'est un mot chargé que j'emploie d'une façon beaucoup plus légère. Mais résister à toutes les saloperies du monde, oui, le plus possible. Oui, le plus possible, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. N'ayant pas de pouvoir réel, c'est la seule chose qu'on peut faire. Par notre art, par notre réflexion, par notre présence, par c'est très important, très important.
Je crois pourtant que la
fin... Faut pas laisser tomber, jamais.
La fin de la décennie 70 marque pour vous, vous l'avez dit, une période de reflux. Peut-être vous n'y croyez plus d'une certaine manière. Vous ne croyez plus au marxisme, vous ne croyez plus à la lutte des classes. Il y avait une forme de désespoir politique chez vous à la fin des années 70.
Moi, j'ai jamais de désespoir.
Ah, vous l'avez
le
formulé
désespoir,
comme ça.
Désespoir.
Je crois désespoir. Reflux. Quel mot vous utiliseriez?
Oh, bah, ni reflux ni désespoir, etc. Je sais pas.
Mais ce sentiment-là vous a envahi ou pas? De se dire, peut-être que c'était une décennie où tout était possible, où les grands débats d'idées pouvaient prendre place.
Non, c'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est que les sentiments humains, les passions, les rêves, sont beaucoup plus forts que toutes les idéologies, que toutes les règles de l'art politique. C'est comme ça, en bien ou en mal, c'est comme ça. Pourquoi, par exemple, c'est intéressant, pourquoi est-ce que la passion religieuse, par époque, revient et redomine? Pourquoi? Comment est-ce que tout à coup des millions de gens, par exemple au Brésil, se font avoir par les évangélistes? Donc il y a de la passion. Il y a de la passion qui leur font croire que les mensonges sont plus forts que la vérité, d'une certaine manière. Alors c'est plutôt dans ce sens-là que, plutôt que, comment vous avez dit, reflux...
Désespoir.
Désespoir. Non, c'est plus intéressant que ça, peut-être un peu, mais c'est plus intéressant que ça. C'est des questions, au fond, c'est des questions. Pourquoi ça revient? Pourquoi est-ce que les générations, au fond, n'apprennent pas grand-chose? Pas grand-chose. Pourquoi est-ce que la passion de la guerre reprend? Pourquoi est-ce que l'existence de la torture reprend? Pourquoi est-ce qu'un nouveau chef d'État hier soir brésilien est capable de chier sur les PD, les Gouines, les Noirs, les... Mais les femmes, mais méchamment, dur. Et oui, et il y a 50 millions de gens qui vont voter pour lui. Pourquoi? Ça, c'est une question intéressante. Ah oui, alors, ça fait peindre. Ce sont mes moteurs. C'est intéressant parce que la peinture est une passion. Donc je peux ressentir pourquoi. Je comprends pas, mais en même temps je ressens que la passion de tout ça est plus forte que la vérité, que des choses simples. Torturer, ça fait mal, on ne torture pas. La haine, c'est dégueulasse, la haine, c'est épouvantable. Ben non, ils haïssent, ils reprennent. Ah ouais. Donc, ayant une passion moi-même, celle de l'art, je vois bien que la passion est partout. Au fond, la passion est partout.
Merci, Gérard Fromanger.
Fin de cette rencontre de Claire Maillot avec Gérard Fromanger. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Thomas Robin, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne ce podcast sur franceculture.fr.